Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Les Déviations est le média de celles et ceux qui ont changé de vie. Les Déviations revendiquent une indépendance totale. Mais pour continuer à exister et diffuser des témoignages, des conseils d'experts, organiser des rencontres, nous avons choisi de soumettre nos podcasts à une ou deux plages publicitaires de 30 secondes. C'est la condition pour que vous puissiez écouter ce podcast gratuitement et nous sommes sûrs que vous comprenez. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Moi, j'avais toujours la petite boule au ventre, j'avais toujours le petit trac, j'étais jamais trop sûre de moi, même si je faisais tout pour que ça n'en ait pas l'air. Et d'une heure sur l'autre, ou même à l'intérieur d'une même heure de cours, ça, c'était « Ah super, ça se passe bien » et tout, « Oh là là, c'est le désert ». Tefal, il n'y a rien qui accroche. Donc ça, c'est des grands moments de solitude. Donc bon, à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ça, que j'y allais toujours avec deux boulets au pied et que je ressortais toujours en me disant « Ah, ça y est, c'est fait », je me suis dit « Peut-être que c'est un signe que je suis pas vraiment faite pour ça ».
On répète sans cesse aux enfants de bien travailler à l'école pour pouvoir choisir la vie qui leur plaira. Solène était une bonne élève, vous savez, de ceux qui plongent des heures sur leurs devoirs sans trouver le temps long, raflent les bonnes notes, ont les faveurs des profs. Quand il a fallu choisir sa voie, elle s'est laissée porter. Elle aimait bien l'espagnol, alors ce serait prof, agrégé tant qu'à faire. Quand elle a commencé à enseigner, elle s'est dit qu'à force, son métier lui plairait. Les années ont filé, et Solène a bien dû admettre que chaque rentrée des classes lui pesait davantage. Jusqu'au jour où Jérémy, un ami lointain, lui a ouvert la voie pour tout changer. Voici l'histoire de Solène, une prof qui a largué les amarres. Bonne écoute.
Alors, je suis Solène, j'ai 38 ans. Je suis née à Léon, dans les Côtes d'Armor, en 1981. Et j'ai grandi en Bretagne. Mes trois premières années, j'étais en Ille-et-Vilaine et j'habitais chez mon oncle et ma tante qui m'ont élevée parce que ma mère est décédée quand je suis née et mon père s'est retrouvé tout seul avec mon grand frère et ma grande sœur. Donc mon père m'a confié à mon oncle et ma tante qui avait une petite fille de 9 mois. Donc j'ai grandi avec ma cousine, on est très très proches en âge et on s'est construites les toutes premières années ensemble. Donc mon père, oui, lui, c'était compliqué pour lui parce qu'il se retrouvait tout seul avec trois enfants, dont un nourrisson, moi. Et je trouve ça hyper courageux de sa part et... J'ai appris il n'y a pas très très longtemps que, au moment de ma naissance, il avait monté... Lui, il est militaire, fonctionnaire. Il avait monté un business de bateaux en kit, où en fait, il a construit son bateau, et il s'est dit, maintenant que je sais construire un bateau, autant que d'autres puissent le faire aussi, je sais faire. Donc voilà, et il a monté son entreprise tout en étant fonctionnaire. Normalement, il n'y a pas le droit. Et du coup, l'entreprise a été au nom de ma mère et elle est décédée et que je suis née, c'était un petit peu compliqué. Il n'a pas prolongé cette aventure-là, mais il y avait ça qui existait en fait. Et ensuite, je suis retournée vivre avec mon père, mon grand frère et ma grande sœur à Malakoff en 1984. Mon père dirigeait un établissement militaire, le logo c'était un atome. Maintenant, j'y repense, je me fais étrange. C'était entouré de fils de fer barbelés, mais à l'intérieur, moi, j'étais hyper libre. Il y avait des lapins qui couraient et tout, des hélicoptères qui atterrissaient de temps en temps. Mais c'était assez à part quand même comme mode de vie. Et au collège, mon père a eu une affectation à Djibouti, en Afrique. Ça, c'est encore une autre aventure parce que c'est très particulier. Bah, c'est une ancienne colonie française. On était très entre Français. Mais à l'école, il y avait une mixité. J'étais dans une école privée, une école de sœurs. Et j'aimais bien, en fait. Et puis, je pense que c'était le bon âge parce que j'étais pas encore vraiment ado. Et moi, tout ce que j'aimais, c'était aller à la plage, baigner. En rentrant à Cergy Pontoise, collège des Toulouses, qui est, bon, c'est pas le collège le plus chic de France. Gros décalage par rapport à ce que je venais de vivre. Et j'étais un peu première de la classe. Enfin, deuxième de la classe. Un peu la geek. Et puis, j'ai découvert qu'être un télo, c'était pas quelque chose de positif, bizarrement. Alors que moi, dans ma tête, être un télo, c'est être cultivé, être intelligent, c'est trop bien. Alors j'ai fait, ah d'accord, pour certaines personnes, ce n'est pas une valeur. Et je me rendais bien compte aussi que, par rapport aux copines qui aimaient bien jouer ensemble, sortir, tout ça, moi, il y avait des fois, j'aimais bien juste faire du canevas à la maison. Comme si j'étais encore au 19e siècle. Et cet aspect créatif arrivait. Et c'est vrai que c'est sûrement quelque chose aussi que j'hérite de ma mère parce qu'elle avait vraiment un don pour tout ce qui était travaux d'aiguille. Elle faisait plein de trucs elle-même et tout. Et du coup, dans la maison, il y avait des choses qu'elle avait créées. Donc moi, je ne l'ai jamais connue, mais j'ai toujours vu des traces d'elle. Et je me reconnaissais dans ses activités sans m'en rendre compte. J'aimais bien le faire, mais je ne faisais pas le lien. Et c'est après, en grandissant, où je me suis dit, ah, mais en fait, ah ouais, il y a peut-être quelque chose. Et notamment avec le tricot que j'ai vraiment poussé à fond. Et après, je suis partie faire le lycée militaire à Aix-en-Provence. Papa militaire, adolescence. Tiens, si je mettais un peu de distance entre mes parents et moi. Et parce que mon père s'est remarié assez tôt. Et je me disais, trop bien, l'internat, ça va être comme la colonie de vacances, mais avec l'école. Et c'était un peu ça. À part qu'on avait un uniforme. Et puis c'est là que s'est dessiné le parcours vers l'enseignement, les études d'espagnol et le concours. J'ai choisi l'espagnol vraiment par presque des hasards d'aiguillage, quoi. Parce que j'ai aucune culture hispanophone dans la famille. C'était parce qu'à un moment donné, il fallait cocher une option, quoi. Et je me suis un peu laissée porter. À chaque fois, c'était un peu ça. Je me suis toujours un peu laissée porter par là où je réussissais le mieux, quoi. Mais sans me dire, j'ai une vraie vocation. J'avais un goût pour la langue espagnole, j'aimais bien la culture, ouais, j'aimais bien. J'avais honte à la fac parce que, avant d'aller en Erasmus, c'est-à-dire en maîtrise, en 2001, donc j'avais 20 ans, j'avais jamais mis les pieds en Espagne. Et je le disais pas à mes profs, parce que c'était un peu la honte. Donc, des hasards comme ça qui m'ont amené loin parce que je suis un peu jusqu'au boutiste. Et donc, j'ai passé l'agrégation parce que c'était la dernière étape, en fait, la dernière case à cocher dans mon cursus. Donc, je suis allée jusqu'à cette marche-là. En fait, c'est vrai qu'à la fac, c'est un peu le parcours classique, quoi, d'enchaîner jusqu'à devenir la personne qu'on a en face de nous et prendre sa place. Mais il y avait plein d'autres chemins, mais je pense que je ne m'étais pas suffisamment renseignée. Peut-être que je n'avais pas suffisamment confiance pour me dire « Ok, en fait, je vais faire quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui va plus me convenir. » C'était toujours un peu des compromis et pas de vrais choix de cœur. C'était plus des choix de raison. Quant à la grègue, t'as des points bonus pour enseigner en lycée plutôt qu'en collège, mais c'est à peu près tout. En fait, l'agrégation, elle te permet d'avoir un meilleur salaire et travailler moins d'heures qu'un certifié. C'est super ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Donc ça donne envie de l'avoir, évidemment. Tant qu'à faire, autant gagner plus pour travailler moins. Ça veut pas dire qu'on est meilleur. Ça veut dire qu'on sait mieux faire une disserte de 7 heures. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut potentiellement, peut-être plus facilement, effectivement, avoir des postes ensuite en fac que si on n'avait pas l'agrégation. Moi, j'avais pas tellement envie. Mais ça veut pas du tout dire qu'on va être un meilleur prof de collège ou de lycée, quoi. Il y a eu deux premières années, on va dire. La première année, c'est l'année de stage. Donc là, j'étais affectée dans un collège à Saint-Marc-sur-Mer. C'est à côté de Saint-Nazaire, c'est là où il y a la plage de Monsieur Hulot, mais hors saison. Donc c'est hyper déprimant. C'était pas évident, c'était une population très mixte, avec soit des gens très aisés, qui avaient des jolies villas et tout, soit des gens très modestes, qui travaillaient plutôt sur les chantiers de Saint-Nazaire. Et le mélange était assez bizarre. Moi, j'avais une classe dure. Et je me suis dit, ah, en fait, ça va pas être si simple. Et ma première vraie affectation en tant que néo-titulaire, c'était à Jouy-le-Moutier, au bout du RER A. Pas loin du tout de là où j'avais fait mon collège, le collège des Touleuses. Donc, je me suis retrouvée avec des élèves qui jouaient avec mon petit frère dans le quartier quand j'étais ado. Trop drôle. Où je me suis retrouvée avec des élèves qui avaient eu ma prof d'espagnol au collège des Touleuses. Mais bon, oui, c'était marrant quelquefois, mais pas toujours non plus. Là, c'était pareil, population hyper mélangée, hyper mixte, où il y avait certaines classes qui étaient vraiment très dures. Et là, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, où est la porte de sortie ? J'ai vu que la classe, c'était pas que le premier rang. Et que c'était un vrai public avec un vrai travail qui ressemblait pas du tout à ce qu'on nous avait enseigné. J'ai l'air jeune, donc tout le monde me prenait pour une élève. Voilà, je me disais que j'allais finir par acquérir cette aisance et tout. Je me présentais devant les élèves au départ en me disant, en suivant ce qu'on m'avait appris à l'IUFM, qui était... Il faut se créer un personnage d'autorité, il faut rien laisser passer, il faut faire un cadre. Mais sauf que moi, je suis pas du tout comme ça. Donc j'arrivais, déjà, j'étais pas crédible. J'arrivais, je faisais « Hola !» Et en plus, je trouvais que ça marchait mieux, en fait. D'avoir l'humour comme levier, d'être plus naturel, les élèves, ils y croyaient davantage. Et quand ça devait ne pas marcher, que ça ne marche pas en étant cool ou que ça ne marche pas en étant sévère, de toute façon, c'est... C'était le même résultat, sauf que au moins, quand j'étais moi-même, je me sentais moins en train de faire un personnage qui n'avait aucun sens. Donc, c'était comme ça que je me présentais. Et puis, ce n'était pas forcément toujours bien vu. Ça, je m'en suis rendu compte. Parce qu'en salle des profs, quand je disais « Ah, j'arrive pas avec cette classe et tout, machin », je leur ai dit ceci, ils ont réagi comme ça. Il y avait souvent des collègues qui disaient « Quoi ?» Mais non, mais t'aurais dû être plus sévère, t'aurais dû... Tu leur as dit ça ? Mais non, mais c'est pas possible et tout. Et je me rendais compte que c'était pas évident d'être forcément soi-même. Et à la fois, c'était pas non plus facile d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Donc j'étais un peu coincée. Et peut-être aussi justement parce que j'avais pas cette véritable vocation. Et j'admire vachement les profs qui l'ont, quoi, et qui y vont tous les matins, et qui assurent, et pour qui ça marche, en fait. Comme stratégie, au départ, j'avais envie d'inventer des choses et tout, et ça, j'avais du mal à le transposer dans mon métier. C'est-à-dire que être créative pour monter des séquences pédagogiques, non, ça m'intéressait pas. Comme j'étais un petit peu créative, mais trop forte à l'école pour m'orienter vers des filières plus manuelles ou quoi, j'ai décidé de monter un collectif de tricoteuses avec des copines. Et on a fait du tricot pendant plusieurs années. Ça s'appelait le collectif France Tricot. Et on faisait du tricot dans la rue et c'était trop cool. Et on avait organisé des apéros tricot où les gens venaient tricoter dans des bars. Ça a duré quelques années, et puis au bout d'un moment, ça s'est un peu essoufflé quand même. Et puis, un truc que j'ai trouvé hyper dur dans l'enseignement, c'est les inspections. parce que on nous dit jamais ce que vaut notre travail. Et moi, comme ancienne première de la classe, j'aime bien quand on me dit « C'est bien, Solène, tu as bien travaillé. » Et là, bah, ça n'arrive jamais, c'est fini. Et quand on vient nous voir une fois tous les 10 ans, c'est pour... Enfin, moi, les deux fois où j'ai été inspectée, j'ai eu vraiment l'impression que, en une heure, tout ce que j'avais construit pendant les années précédentes était réduit en miettes. Il y a un débrief pendant une heure où il dit, bon, premier point, il y a un truc positif. C'est, je sais plus, il donne un truc positif. Et après, il détaille tous les trucs négatifs et il y en a 850, quoi. Donc, tu ressors de là un peu comme d'une essoreuse à salade. Toute la confiance en toi que tu as construite année après année, millimètre par millimètre, là, d'un coup, bim, tout retombe à zéro, quoi. Être prof d'espagnol, comme moi je l'étais émotionnellement, c'est des matins où... Non, tous les matins, j'avais pas envie d'y aller. Voilà, déjà, ça, c'était le postulat de départ. J'avais l'impression d'avoir un boulet de 10 kilos à chaque pied. Je préférais toujours ne pas y aller que y aller. Ensuite, une fois que j'arrivais dans l'établissement, ça allait. Parce que je suis quand même quelqu'un de sociable et en salle des profs, je trouve que c'est agréable pour personne, les gens qui tirent une gueule de 3 kilomètres. Donc, bah, ça se passait hyper bien avec les collègues, on rigolait, ambiance... détente, et en plus c'est nécessaire parce qu'on sait qu'après on monte au front, donc entre nous on a intérêt à être un petit peu chaleureux. Donc ça, c'était le côté sympa. S'il y avait eu que la salle des profs, moi j'y serais encore, hein. Enfin, y a pas de souci, on faisait des gâteaux, voilà. Mais après, quand fallait y aller, moi j'avais toujours la petite boule au ventre, j'avais toujours le petit trac, j'étais jamais trop sûre de moi, même si je faisais tout pour que ça n'en ait pas l'air. Et bah, d'une heure sur l'autre, ou même à l'intérieur d'une même heure de cours, ça, c'était du « Ah super, ça se passe bien » et tout, au « Oh là là, c'est le désert, les classes zombies, où il se passe rien, où on dit « Allez, on va faire tel document, regardez, ouvrez votre livre à la page 69 ». Et là, les trois quarts n'ont pas leur livre, si c'est que la moitié encore, ils peuvent prendre un pour deux, mais... Des fois, non, même pas. Et puis, bah, lisez le texte. Et là, ben, personne n'est en train de lire le texte. T'éphale. Il y a rien qu'accroche. Donc ça, c'est des grands moments de solitude. Il y a aussi les classes qui chicanent. Hargneux. On arrive une minute en retard. Madame, vous êtes en retard. Voilà, toujours agréable. Donc on essaye d'envoyer des signaux positifs. Et puis, bah, c'est des ados, donc ils... Des fois, ils s'en foutent un peu. Et ils font un peu tout pour que rien ne marche. C'est très énervant. En plus, c'est assez inconscient. C'est des stratégies qu'ils mettent en place pour éviter le travail, ce qui est très compréhensible. Mais dur à vivre. Je ressortais toujours de cours en étant contente que ce soit fini. Mais pas tellement en analysant, oui, alors là, vraiment, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était intéressant parce que ceci, cela, la prochaine fois, je devrais plutôt faire d'une autre façon pour que, non, non. Et en fait, non, moi, c'était juste, ah, c'est fini, c'est plus à faire. Donc, bon, à un moment donné, quand je me suis rendu compte de ça, que j'y allais toujours avec deux boulets au pied et que je ressortais toujours en me disant, ah, ça y est, c'est fait, je me suis dit, peut-être que c'est un signe que je suis pas vraiment faite pour ça. Au début, je me disais que ça allait pas durer et que j'allais prendre de l'assurance et que ça allait devenir super, parce qu'il faut quand même un petit peu se motiver. Et progressivement, j'avais bien conscience que ben, ça n'évoluait pas. Enfin si, ça évoluait, j'ai quand même pris de la confiance et appris des choses et tout. Mais fondamentalement, cette sensation de ne pas avoir envie d'y aller et d'être contente d'en partir, ça je l'ai toujours eu. Je suis restée prof 14 ans. Oui, je suis tenace. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient jeté l'éponge au bout de 2 ans, 1 an. Il y en a qui le font. Je pense que pendant 14 ans, j'ai creusé mon tunnel avec une petite cuillère. Les savons, ça c'est arrivé il y a 2 ans, je pense, maintenant. Et ça a coïncidé avec un moment où j'avais envie de consommer mieux. Au niveau des cosmétiques, ce qu'on utilisait, c'était pas forcément toujours très satisfaisant, en tout cas pour moi. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de trucs par soi-même. Alors moi, dès qu'il s'agit de faire par soi-même, je suis trop contente, j'y vais. Donc je découvre comment on fait du savon. Je montrais sur les réseaux mes petites recettes, mes petits tests. Je découpais les savons, voyais ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était très addictif. Et plusieurs copines m'ont dit « Ah, moi j'aimerais bien apprendre si tu nous montrais. » Donc j'ai dit « Bah venez à la maison. » Et puis lors d'un de ces ateliers, j'avais invité Jérémy. Et Jérémy, je l'avais rencontré 10 ans plus tôt. Ouais, donc vers 2008 par là. Quand il faisait du crochet. Et lui, il faisait des bonnets. Il tricotait des... Il avait monté une boîte qui s'appelait Golden Hook, où il faisait tricoter des bonnets par des grands-mères. Donc on s'était rencontrés à l'époque, et puis on s'était jamais trop perdu de vue, même si on se fréquentait pas plus que ça. Et puis là, Jérémy, je pense que lui, ça arrivait à un moment où il avait envie aussi de retourner vers quelque chose d'artisanal, et du coup il avait activé ses antennes. Et quand il a vu que je proposais un petit atelier à la maison, il m'a dit « Ah, je peux venir et tout ». Je dis « Bah ouais, viens ». Du coup, on a discuté un petit peu, et puis on a réfléchi 5 minutes. Il m'a dit « Mais viens, on monte une savonnerie ». Et moi, en fait, j'attendais que ça, de trouver le bon alignement des planètes pour me lancer dans un autre projet créatif et artisanal. Parce que j'arrivais un peu au bout de la phase tricot. J'étais toujours en train de creuser mon tunnel à la petite cuillère. Et Jérémy, ça a été un peu le déclencheur. Le fait de quitter l'éducation nationale, donc c'était déjà présent depuis très longtemps. Au moment où Jérémy a commencé sa phrase qui disait « Hé, Solène, si on montait une savonnerie ?» En fait, j'ai vu l'image où j'y allais plus à la rentrée. Et ça, c'était un fantasme, mais d'une puissance que j'avais depuis tellement longtemps. C'est-à-dire qu'à chaque rentrée, j'avais tellement les boules. Et à chaque rentrée, je me disais « Oh là là, si j'avais plus ça !» Et ma vie, rien qu'à l'idée, ma vie se transformait en arc-en-ciel rempli de paillettes. Et du coup, très rapidement, on a commencé à réfléchir à comment on va appeler notre marque, qu'est-ce qu'on va faire, quel type de savon, on a commencé à se rencontrer régulièrement pour avancer sur le projet. Et on a mis à peu près 1 an à tout bâtir, c'est-à-dire vraiment à poser les bases, trouver un local pour faire les savons, se former à la législation, monter tout ce qui était la partie business. Et puis 1 an après, on a vendu notre premier savon. Progressivement, en fait, la première année où on a commencé à monter le projet, je me suis mise à 80%. Mais ça faisait longtemps que j'étais plus à temps plein. Parce que déjà, depuis la naissance de mon fils, je m'étais mise à temps partiel. Parce que j'arrivais en fait à boucler mes fins de mois tout en travaillant pas le taux complet. Et ça me convenait très bien, puisque grosso modo, moins j'en faisais au lycée, mieux je me portais. Je me suis mise à 80%, puis à mi-temps, à 50%, puis en dispo. Là, cette année, depuis le mois de septembre, j'ai pris une disponibilité. Donc, parce qu'on peut pas, quand on est à l'éducation nationale, on ne peut pas monter une entreprise en même temps, on est fonctionnaire, sauf une micro-entreprise, en demandant l'autorisation et en étant à temps partiel. Donc, en fait, c'est un peu un choix. De toute façon, je n'avais pas le choix. C'était ça ou mettre directement la démission et puis faire ce que je voulais. Donc, je n'étais pas prête non plus à faire un choix aussi radical. Mais bon, moi, je pense qu'à un moment donné... Enfin, moi, j'aimerais la poser parce que mon entreprise fonctionnera bien et que du coup, elle sera viable et que du coup, je ferai que ça. Et dans ma famille, ouais, il y a ça, c'est que... Quand on est agrégé, fonctionnaire, prof, tous les gens de la génération des plus anciens disent « Non, ne quitte pas ça, c'est trop précieux, t'as besoin de cette sécurité, ne prends pas de risques. » Parce qu'en fait, ils nous aiment et ils n'ont pas envie qu'on se casse la gueule, quoi. Mais sauf que je pense qu'à un moment donné, le conseil de dire « Ouais, vas-y, fonce !» c'est bien aussi. Mon père, par exemple, au hasard. Il était très « Ah non, ne quitte pas », etc. Et puis, je lui ai reparlé « Au fait, tu te rappelles de ton projet de bateau, là ?» C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Et puis après, il était « Non, mais vas-y, fonce !» Mais ne quitte pas l'éducation nationale. Et en fait, comme ça, le statut le permet, ben, je peux quand même foncer sur mon projet. Et puis, moi, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui est hyper comme ça aussi, à me pousser, à me dire « Mais vas-y, fais-le à fond et tout !» Je pense que c'est le premier, même au moment du tricot, à m'avoir dit « Mais non, mais vas-y !» Alors que le tricot, tout le monde prenait ça pour un hobby. Donc lui, il est hyper soutenant. Il participe aussi à plein de petits trucs au quotidien. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Alors ma première rentrée sans rentrée, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je suis sortie dans la rue pour aller au labo. Je passais devant les écoles, devant les lycées, devant les collèges. Et j'étais là, j'y vais. La la la, je me sentais, j'avais l'impression de narguer tout le monde, et c'était une grande liberté. Et en fait, je m'oblige à y repenser souvent, c'est-à-dire je garde toujours en tête mes collègues qui y vont, eux, à chaque rentrée de petites vacances, tous les lundis, je pense à eux, respect éternel. Mais moi, j'y vais pas. C'est un peu un truc d'enfant, en fait, de dire « la la l'air ». Et c'est, je le vis vraiment comme ça. Alors, la journée type avec Simon, c'est le matin, je me réveille à 7h. On prend notre petit déjeuner avec mon fils. Mon mari est déjà parti au travail. Il travaille en horaire décalé, ce qui lui permet de rentrer tôt et de s'occuper de notre fils à la sortie de l'école. Donc, je l'amène à l'école, 8h30, en courant. On arrive à, en général à 29. Et ensuite, je file au labo. Pour l'instant, on a un labo à Nanterre. Et là, bah, ça dépend. Je déroule. Ça dépend où j'en suis. Est-ce que tel savon a besoin d'être démoulé, découpé, mis en cure? Ou est-ce qu'il faut plutôt s'occuper des commandes des boutiques, faire des expéditions, répondre à des mails? Enfin, j'organise ma journée un petit peu en fonction de ce qui... des priorités, quoi. Maintenant, je commence à travailler avec un petit peu plus de monde. J'ai une stagiaire qui vient aussi bosser tous les jours. Elle fait plusieurs tâches différentes. Des fois, c'est avec moi, des fois, c'est avec Jérémy. Jérémy, il n'est pas là tout le temps non plus. Quand il vient, on est plutôt sur des tâches de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, avec qui, quand et tout. Et sinon, moi, ce que j'adore, c'est allumer la musique, enfiler mes gants et me mettre à faire du savon. Et être dans des tâches très, très manuelles, minutieuses, où je vais être là, au millimètre près, à caler mes trucs et tout. Ça me plaît beaucoup. Et en général, ça me fait me rappeler que c'est vraiment l'inverse de étudier un texte d'espagnol, quoi. Parce que je faisais marcher que mon cerveau, et là, je fais... marcher que mes mains. Enfin non, c'est quand même, il faut quand même un petit peu travailler la tête, mais c'est très très concret, quoi. Et je me dis que effectivement, si ado, au moment de l'orientation, j'avais dit je veux être savonnière, je veux faire du savon, qui est un métier très manuel. En plus, je pense que à l'époque, il y avait pas encore tout ce retour aux métiers traditionnels, aux métiers artisanaux et tout. Du coup, le savon, dans les années, fin des années 90, c'était vraiment que du savon industriel. Personne se lavait au savon, c'était que du gel douche. Ça aurait été vraiment extraterrestre. Mais déjà, là, ça l'est un petit peu. Mais je pense pas que ça aurait pu arriver au moment de me choisir un métier en sortant du lycée, quoi. Si je devais me donner un conseil à la moi lycéenne de l'époque, je me dirais arrête de vouloir être la première de la classe, en fait. On s'en fout. Ce que t'as vraiment envie de faire... Par contre, fais-le à fond et n'écoute pas les gens qui te disent « Ah, mais c'est risqué, méfie-toi ». Comme conseil, je me dirais de me faire plus confiance et que de toute façon, je vais y arriver. Donc, autant arriver à faire quelque chose que t'aimes, vraiment. Et arrête de croire que ce que t'aimes, c'est les matières de l'école. Et fais confiance aussi aux choses qui t'arrivent. Pas que à toi, mais aussi aux choses qui t'arrivent. Les savons ciment, ils ont la particularité d'être conçus comme des objets qui lavent. Bon, ça, jusque-là, tout va bien, c'est des savons. Mais qui sont jolis aussi, et dont on a travaillé les motifs et l'aspect visuel aussi. Donc, c'est des savons qui ressemblent à des carreaux de ciment, avec des motifs qui se répètent, qu'on peut assembler un peu comme des mosaïques, ou comme un pulse. Bah, d'ailleurs, j'aime bien l'image du pulse, surtout pour ce podcast, parce que c'est le podcast qui raconte les changements de vie. Et moi, je me dis, mais en fait, j'ai pas vraiment changé ma vie. Elle était bien, ma vie. Il y avait juste le travail, quoi, qui me saoulait. C'était la pièce du pulse qui n'était pas dans le bon sens, en fait. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé la bonne pièce, d'avoir tourné dans le bon sens pour que tout forme l'image qui me convient, dans laquelle je suis à l'aise et heureuse, quoi. Et à la fois, bah, il suffit parfois de changer une pièce et ça change pas mal d'autres choses autour. Et en plus, le travail, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est pas une petite pièce dans un coin. C'est un peu la grosse pièce au milieu avec l'entourage, la famille... Les choses un peu essentielles, quoi, dans la vie. Parce que c'est vrai qu'on passe plus de temps à faire son travail qu'à être avec ses proches. Donc, une grosse pièce, quand même, du pulse. Et je me dis, mais en fait, on peut aller sur des terrains où on n'a pas une légitimité, par les études, par son expérience, et l'acquérir petit à petit. Et bizarrement, cette légitimité-là, j'ai jamais eu l'impression de l'acquérir en tant que prof, alors qu'avec quelque chose qui n'a rien à voir, où j'ai pas fait les études pour et qui tombe comme ça un petit peu par hasard, et ben là je me le suis complètement approprié et ciment c'est vraiment quelque chose qui m'appartient pleinement.
C'était un entretien mené par Laurence Velli, réalisé par Sydney Clazen. Si vous aimez les déviations, n'hésitez pas à le faire savoir. Commentez, écrivez-nous, réagissez avec des cœurs, des pouces levés et des étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.